Écrit d'ici avec le Ciala. C-I-A-L-A.
Collectif interculturel des auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit?
Alors, retrouvez-nous le premier mercredi de chaque mois sur Jet FM 91.2 à 17h30 et en rediffusion le troisième mercredi du mois, toujours sur Jet FM 91.2 et toujours à 17h30.
Et en podcast sur jetfm.asso.fr.
Bonjour à tous et à toutes. Ravie de vous retrouver après une deuxième interruption pour cause de pandémie. On espère bien que ce sera la dernière. Bonjour Martine.
Bonjour.
Bonjour André.
Bonjour.
Et bonjour Bénédicte Desmazeries.
Bonjour.
Écrit d'ici, l'émission qui donne la parole aux auteurs, reçoit donc aujourd'hui Bénédicte Desmazeries. Bénédicte, merci d'être avec nous pour cette émission de reprise.
Ah, merci, je suis ravie. Merci de votre accueil.
Nous allons parler ensemble d'un de vos nombreux romans qui s'intitule « La vie tranchée », paru aux éditions Anne Carrière en 2008. Pour commencer, peut-être nous dire la place qu'occupe ce livre dans l'ensemble de votre travail, pour lancer les échanges avec nous.
Ah, il a une place très particulière ce livre, parce que pour moi, je dirais qu'il signe mon entrée en littérature, d'une certaine façon. Puisque c'est ce premier roman, même si c'était le troisième qui a été publié. D'ailleurs, je signale qu'il est publié aussi en livre de poche chez Pocket depuis 2016, ce qui le rend plus accessible, je précise aussi. Et en fait, ce sont des amis qui m'ont confié un jour un paquet de lettres qu'ils avaient retrouvées dans un grenier, qui venaient du frère de leur grand-père, mais dont ils ignoraient l'existence, oui, de ce frère en question, qui était parti faire la guerre en août 14 et qui était mort sur le front en mai 1915. Et ils m'ont confié ce paquet de lettres. Et à l'époque, je travaillais sur tout à fait autre chose. Un projet littéraire qui, d'ailleurs, n'a pas vu le jour, puisque ça m'a complètement détournée. C'est la première fois que j'ai été vraiment habitée par cette chose-là. En fait, en lisant ces lettres, quelque chose a germé en moi qui a fait que l'histoire de Louise Saint-Gervais a pris corps et m'a incitée à m'intéresser de très près à la guerre 14, et notamment la censure postale, c'est-à-dire à ce qu'on ne laissait pas dire.
Merci.
Alors, en août 1917, à l'hôpital militaire d'Amiens, nous faisons la connaissance de Louis et Fernand, tous deux blessés sur le front. Leur hantise est d'y retourner. En novembre 1917, Louis quitte l'hôpital et son compagnon d'armes. Il est nommé lecteur au contrôle postal. La force du roman est de vivre de l'intérieur les ressorts de la censure du courrier écrit et reçu par les soldats, ainsi que l'évolution de Louis, rouage de la censure. André va nous lire un premier extrait de ce roman.
Hôpital militaire d'Amiens. Août 1917. La lettre arriva un matin, portée par les mains blanches et sèches de sœur Anne. « Tenez, » dit-elle de sa voix ferme, « c'est pour vous. » Et elle ajouta, en coulant sur la lettre un regard rempli de curiosité, « c'est officiel, on dirait. » L'entête indiquait que la lettre venait de la direction de l'infanterie, et cela ne lui disait rien qui vaille, c'était à coup sûr des ennuis et sans doute le plus terrible de tous, en tout cas celui qu'il redoutait le plus, un retour au front. Louis était en convalescence. Par miracle, il avait conservé ses deux jambes, ses deux bras, sa tête en entier. Il avait juste perdu deux doigts de pied, résultat des longues heures passées dans le froid et la boue. Ses pieds gelés le faisaient hurler de douleur et c'est ainsi que le major l'avait fait évacuer. Une bonne blessure, ça on pouvait le dire. Deux doigts de pied, qu'est-ce que c'était? Pas grand-chose au regard de ce que d'autres avaient perdu. Rien au regard de ceux qui étaient perdus. Louis sentait l'enveloppe sous sa main. Tant que cette lettre resterait fermée, se disait-il, il garderait l'espoir qu'il s'agisse d'une simple formalité, une modification de son grade, par exemple, ou mieux, un avis d'inaptitude militaire pour blessure de guerre. Louis leva l'enveloppe à hauteur de ses yeux et la décacheta d'un geste vif.
Bénédicte, il y a eu des écrits sur la Grande Guerre. La censure postale est une information arrivée aux oreilles de nombreuses personnes. En revanche, vous avez fait un choix particulier de faire vivre ça au lecteur de l'intérieur, à partir d'une histoire singulière et personnelle. Donc vous nous avez déjà un petit peu expliqué la genèse. Mais pourquoi cet angle de traitement en fait, de la censure postale ?
Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, et je me suis aperçue, c'est pour ça que ce roman est important pour moi, parce qu'il m'a permis de comprendre quelque chose qui se retrouve dans tous mes autres romans suivants, c'est ce qui m'intéresse, ce sont les gens qu'on n'entend pas, voilà. Ceux qu'on ne veut pas écouter, et ceux qui sont tombés soit dans des trous de l'histoire, soit qu'on a vraiment mis sous cloche et en silence, laissé silencieux. Donc... Ces lettres que m'avaient confiées ses amis, il y avait de ce jeune homme qui m'a largement inspiré ce roman, et d'ailleurs ce roman lui est dédié, disait à un moment qu'il avait pris part à la bataille de la Marne et rassure ses parents en disant « nous avons subi un peu de dégâts ». Et tout a commencé là. Je suis allée voir, je me dis « un peu de dégâts à la bataille de la Marne », je ne connaissais pas grand-chose de la Première Guerre, mais quand même je me suis dit Je suis allée voir le journal de marche du régiment, qui est accessible au fort historique, au service historique de l'armée de terre à Vincennes. Et là, en lisant le journal de marche, qui est le journal du jour, j'ai découvert qu'en fait, ils étaient partis le matin. Ils ont été pris dans un petit bois et il restait le soir 1250 hommes sur 3005. Donc un peu de dégâts. Et là, je me suis dit, je veux absolument parler de l'indicible, de cet indicible-là. Et c'est comme ça que... Et je suis désolée, j'ai perdu de vue la question, je crois.
Non, c'était sa réponse, c'est-à-dire c'était pourquoi effectivement faire vivre manière intime en fait cette question.
Et alors à partir du moment où je me suis dit je voudrais faire parler, j'ai découvert, je suis tombée sur la censure postale, j'ai vu qu'il y avait énormément de rapports, il y avait des rapports hebdomadaires qui étaient faits, il y avait une source là extraordinaire à portée de main, et donc je me suis partie de cette source là pour donner en fait à entendre la guerre en écho et non plus aller sur le front mais la donner en écho. Et je voulais voir ce que ça crée comme cas de conscience chez un homme qui savait de quoi il s'agissait et qui se retrouvait obligé de censurer ses camarades, ses compagnons de souffrance.
Merci beaucoup.
André, nous allons écouter une deuxième lecture.
Chaque fois que Louis poussait la porte de la pièce, il éprouvait la même sensation que lorsqu'il était entré pour la première fois. Il se sentait étourdi à la vue de cette grande salle éclairée par une série de lampes suspendues, aux tables alignées les unes à la suite des autres et qui résonnaient d'une effervescence studieuse et disciplinée. Devant chaque lecteur, des piles de lettres d'une hauteur inégalée s'entassaient. Et les taux courbés des hommes s'agitaient au rythme des mains qui prenaient une lettre, l'ouvraient, la dépliaient, puis la posait à droite ou à gauche selon son contenu, la frappait du cachet deux fois et s'emparait de la suivante, l'ouvrait, la dépliait et ainsi de suite. Chaque fois que Louis traversait la pièce pour gagner le bout de table qui lui était attribué, une sensation de vertige l'accompagnait, qui ne se calmait qu'au moment où il prenait connaissance de la première lettre du jour. « Cher Maurice, rien de nouveau à t'apprendre depuis hier. Il fait toujours un temps effroyable, nous avons de l'eau et de la boue jusqu'aux genoux et depuis ce matin, je suis malade, avec des coliques qui me tordent le ventre en deux. Je crois que la faute en est au pain et à la viande qui nous arrivent gelés. Même le vin gelé dans les bidons, tu n'as qu'à voir. Ce soir, nous marchons vers Carency et l'on attend dans les jours à venir un sérieux coup de main. Prie que j'ai la chance d'en revenir, ton cousin René. » Indiscrétion de lieu, nota machinalement Louis, se souvenant qu'il avait reçu récemment une note du grand quartier général sur la façon la plus efficace de caviarder un mot dans une lettre. Il attrapa sa bouteille d'encre noire, y trempa son pinceau et passa une couche sur le mot « carenci ». Il reboucha soigneusement la bouteille d'encre, apposa le double cachet et s'attaqua à la lettre suivante. Les premières semaines, Louis avait eu la nausée. Toutes ses lettres à lire, les unes après les autres, avec en tête la fameuse grille en quatre catégories que le grand quartier général avait élaborée. Hygiène, guerre, affaires extérieures, arrière. Classer les extraits dans les bonnes catégories. Lire chaque lettre avec un œil neuf. Penser à l'espion allemand en quête de la moindre information. Et ne laisser filtrer aucune indication, la plus anodine soit-elle. Au bout de 3 mois, il ne réfléchissait plus à ce qu'il faisait. Tout se mettait en place naturellement. Son premier tas d'une centaine de lettres commençait à diminuer. La plupart d'entre elles étaient refermées et renvoyées à leur trajet postal. Seules quelques-unes restaient mises de côté pour leur contenu douteux. Elles seraient vues tout à l'heure par l'officier Mercier, responsable du groupe de lecteurs auquel appartenait Louis, qui déciderait en dernier sort de leur avenir. Louis avait mis de côté 3 lettres. Et pour chacune d'elles, au crayon de bois, il avait indiqué son opinion. 2 pour découragement et 1 pour opinion subversive. Si Mercier partageait son avis, il recopierait les extraits significatifs qu'il avait soulignés et les courriers iraient ensuite au rebut. Parfois, lorsque les propos tenus étaient estimés dangereux pour la nation, les lettres étaient saisies et directement transmises au grand quartier.
La construction du livre, donne une certaine dynamique entre les documents historiques, donc les lettres, et tout ce qui se passe chez Louis, puisque c'est à la fois il est à la fois obéissant, puisque de toute façon il n'a pas tellement de choix, mais il s'identifie, donc ça donne lieu à comme tu l'as dit tout à l'heure. Et comment tu as imaginé son évolution au fil du roman, parce qu'on sent quand même son évolution par rapport à son travail.
Oui, tout à fait. L'idée c'était d'interroger en fait la conscience d'un homme. Déjà, les lettres, toutes les lettres sont authentiques. Elles sont merveilleusement bien écrites. Moi, j'ai lu des choses splendides. Et je me suis dit que j'avais vraiment à cœur aussi que cette voix, leur voix, que ce soit pas moi, que ce soit pas la mienne, que ce soit la leur, la voix de tous ces hommes qui n'ont pas été entendus, puisque leurs lettres ont toutes été censurées ou caviardées. Et c'est ce Louis, justement, mon Louis, ce qui m'intéressait, c'était de voir jusqu'où il pouvait aller. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'obéissance et à quoi obéit-on quand on désobéit, par exemple. Donc voilà, c'était un petit peu la question que je voulais poser. Je voulais le voir évoluer. Qu'est-ce qu'être un homme, voilà, si ce n'est obéir à sa conscience.
Oui,
est-ce que ça fait désobéir?
Est-ce qu'on obéit à tout?
Donc au fur et à mesure, et grâce à son ami, son grand ami qui l'a accompagné durant toute la guerre et qui est beaucoup plus dégourdi que lui et qui va lui ouvrir le chemin d'une certaine façon, Louis va accéder à quelque chose. Après, je ne peux pas dire quoi, parce que sinon je raconte tout.
Bah oui, mais cette question d'obéissance, oui. Elle est vraiment intéressante, parce que c'est ce qui se passe un peu... durant un petit peu toutes les guerres, hein, c'est ce qui s'est passé.
Mais c'est ce qui se passe même. Même dans des situations autres.
Est-ce qu'on doit obéir?
Et voilà. À quoi doit-on obéir?
À quoi doit-on obéir?
Voilà. Ouais. Et Louis, il se retrouve en situation d'obéir aveuglément, alors qu'il sait très bien à quel point tout ce qu'il lit est juste et vrai. Mais pour des raisons de patriotisme, de surtout pas de créer de défaitisme, pour pas qu'il y ait de lien entre ce qui se passait à l'arrière, où déjà ça commençait un petit peu à... Parce que la guerre n'était pas censée durer. Là, on est en 17, il y a eu les mutineries sont produites. Oui. Donc, il y a quand même une inquiétude de la part du gouvernement et de l'état-major de voir un petit peu une espèce d'onde de rébellion se diluer dans... à la fois du front et de l'arrière.
Mais c'est un peu une règle générale, la censure pendant les guerres, de toute façon.
Oui, de toute façon, maintenant, c'est les liens Internet qui sont... les courriels pendant exactement. Les guerres qui sont censurés.
Alors, on va faire donc une petite pause musicale avec Juliette.
Mmh. Et donc, Guillaume Depardieu.
Comment ?
Et Guillaume Depardieu.
Oui, donc, voilà. Lettre oubliée.
Une lettre oubliée, c'est, je crois. Oui, une lettre oubliée.
Une lettre oubliée, donc une chantée par Juliette et Guillaume Depardieu. Alors, aujourd'hui, ça va être un peu spécial, puisqu'on va écouter une première partie, parce qu'elle est assez longue, une première partie de la chanson, maintenant, et la fin de la chanson, à la fin de l'émission.
D'accord.
FM 91.2, c'est l'émission Écrit d'ici. Nous sommes en compagnie de Bénédicte Demazeri pour son roman La vie tranchée. André, ça c'est à toi pour une dernière lecture.
Louis leva un instant les yeux de sa feuille. Il avait les doigts gourds à force de frapper les touches de la vieille machine. Depuis plusieurs semaines, en plus de son travail de lecteur, il faisait office de dactylographe. On disait qu'une femme allait bientôt arriver pour remplir cette fonction. Louis espérait sa venue. À ses côtés, le président de la commission, le capitaine Joseph Griot, posa une main sur son épaule. « N'ayez crainte, mon garçon. Vous n'en avez plus pour longtemps. Le grand quartier général vient de m'annoncer l'arrivée de la jeune femme promise. Elle devrait être là dans les 2 semaines. Vous devez être soulagé. Maintenant, il suffit que la jeune enfant... elle a à peine 19 ans, soit à la hauteur de sa tâche, et vous n'aurez plus à taper le moindre rapport. Mais je compte sur votre aide si besoin est. Bien sûr, mon capitaine. Blanche arriva un mardi en fin d'après-midi. De toutes les femmes que Louis avait approchées jusque-là, Elle était de loin la plus singulière. Taille moyenne, hanche fine, un chignon châtain serré sur la nuque. La jeune fille n'était pas ce qu'on pouvait appeler jolie, mais à peine eut-elle posé le pied dans la pièce que Louis ne vit plus qu'elle, qui avançait à pas timide aux côtés du président Griot, en jetant des coups d'œil furtifs autour d'elle. Sa jupe longue découvrait des bottines lacées serrées. Par-dessus sa veste en coton grossier, elle portait un tour de cou en fourrure marron clair. « Du renard !» nota Louis, en se levant comme tous les autres hommes dans la pièce. Son regard fixe et ses lèvres tombantes lui donnaient l'air d'une fillette renfrognée. « Repos !» Griot s'était arrêté devant la table des officiers. « Messieurs, je vous présente Blanche Castigard, la jeune dactylographe que le quartier général nous avait promise. Je demande à chacun d'entre vous de l'accueillir le mieux possible. » Blanche nous vient du bureau central des postes de la rue du Louvre à Paris où elle travaillait dans la salle de tri. Griot s'avança vers la table de Louis accompagné de Blanche. Le caporal Saint-Gervais s'étant jusqu'ici acquitté de la saisie des rapports hebdomadaires, je lui demanderai d'assister la jeune Castillard pour le prochain rapport. Maintenant, messieurs, vous pouvez vous rasseoir et reprendre votre travail. Il se pencha vers la jeune fille et lui présenta Louis. Le capitaine Louis Saint-Gervais est un homme de parole en qui j'ai toute confiance, mademoiselle. Aussi, je vous remets tranquillement entre ses mains. Une brève lueur traversa le regard féminin, ce qui eut pour effet de faire rougir Louis. « Merci, monsieur, » murmura-t-elle à son intention. « Demain, vous montrerez à mademoiselle Castillard notre façon de procéder, » dit-il. Blanche eut un sourire énigmatique, un très léger sourire, comme un soupçon. L'espace d'une seconde, ce sourire rendit à Louis un fol espoir.
Après cet extrait, en fait, il y a un nouveau personnage qui arrive et un personnage féminin, alors qui est plutôt hein, présenté comme, en tout cas, la lecture, une impression un peu de souffle d'air frais, mais aussi d'objet du désir, hein, puisque la description est extrêmement physique. Mais on ne peut pas s'empêcher, quand on lit votre livre, d'aussi d'interroger la question des femmes, en fait, dans cette grande guerre, dont on sait historiquement qu'elle est extrêmement présente. Peut-être voir avec vous effectivement quelle était l'idée hein, en faisant arriver cette femme dans cet univers extrêmement masculin, presque en apnée, en tout cas à la lecture du livre, on a l'impression un peu d'être gardé son souffle. Donc voilà, c'était pour vous entendre sur l'introduction du personnage féminin, s'il vous plaît.
Alors, vous parlez d'une situation presque en apnée, mais effectivement, c'est un huis clos. En réalité, puisque ça se passe beaucoup dans une commission de contrôle postal. Et ce qu'on entend du front, on ne l'entend et on ne le perçoit qu'à travers les lettres. Ensuite, il y a les cauchemars de Louis, il y a ses souvenirs du front. Et il y a sa relation avec son fameux camarade de tranchée, Fernand. Et l'arrivée de cette jeune... Je dois dire que je me suis beaucoup plus intéressée aux hommes qu'aux femmes dans cette histoire. Voilà. Mais Blanche m'intéressait parce que, d'une part, Louis a très peur de quitter cette terre puceau. Ça, c'est une réelle peur qu'avaient les poilus, les jeunes, qui n'avaient pas toujours eu le temps de goûter les plaisirs de la chair, les plaisirs terrestres, et pour qui c'était quelque chose d'effort. La vie est là-dedans aussi, donc c'est terrible. Et puis, elle est surtout, c'est une femme qui est aimée, en fait, qui aime un autre homme que Louis, mais qui est aimée par Louis. Et je trouvais ça joli, en fait, parce que Fernand, l'ami de Louis, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui est du côté de la vie, du côté des plaisirs de la vie, du côté de l'instant présent. C'est un homme de décision, c'est un homme de... Et Louis, il est tout le contraire de ça. Il a un côté extrêmement timide qui le rend aussi très touchant. Et je trouve que les deux font un petit peu comme ça, dessinent un autre être. Voilà. Et Blanche, entre les deux, est une part plus... Oui, voilà, j'allais dire éclair mutuellement un peu les deux parts. Mais honnêtement, je me suis beaucoup plus intéressée à la présence féminine. Enfin, on ne peut pas dire que ça parle beaucoup des femmes, dans cette histoire. C'est vrai. Enfin, pas des femmes dans la guerre, en tout cas. Pas des femmes dans la guerre.
Ah oui, moi, je pensais qu'il y avait peut-être un aspect féministe, parce que, étant donné tes dernières parutions, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un côté... non.
Ah non, 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 non. Non, Blanche, elle est marrante parce qu'elle a un côté un peu espiègle. Elle est rigolote. En même temps, elle aussi, elle aurait besoin de sortir d'elle-même un peu. Elle a à la fois un côté Fernand, à la fois un côté Louis. Elle est partagée entre les deux. Non, il n'y avait pas de portée féministe à l'origine.
D'accord. Par contre, donc, pour terminer, tu peux nous parler de tes dernières... Enfin, de ce qui va pas... Je crois que tu as un projet là en cours ou qui est prêt à paraître, je ne sais plus trop.
Oui.
Et puis, l'album qui vient de paraître, peut-être.
Oui, en fait, je viens de faire un album avec, de bande dessinée avec ma fille, qui est illustratrice. Voilà. C'est l'histoire d'un roi au Moyen-Âge. Mais ça se lit, il y a deux lectures. Quand on pose un calque dessus, en fait, on s'aperçoit que le roi a des complexes cachés et n'agit pas pour les raisons qu'on pourrait penser. Et là, il y a une version beaucoup plus contemporaine. Là, pour le coup, c'est un récit qu'on pourrait dire féministe, mais pas uniquement, parce que c'est un récit qui interroge le rapport des hommes et aux femmes, le rapport des hommes à leur propre puissance, à leur propre virilité aussi, parce que sous le calque, tout le monde est nu. Et voilà, donc, mais le rapport des hommes et des femmes entre eux. Voilà,
tu peux nous rappeler le titre ?
Ah oui, pardon. C'est Le Roi Géant, en fait, aux éditions Lapin.
D'accord. Et donc, le projet en cours ?
Eh bien, moi, j'ai un autre album qui va sortir de bande dessinée, mais là, c'est complètement différent sur l'arrêt du tabac. Moi, c'est un truc rigolo aussi. Et puis après, je vais me mettre à mon sixième roman qui est en... Voilà, que j'avais laissé en suspens pour faire d'autres choses.
Donc on te réinvitera.
Et notamment, j'ai fait aussi un travail de co-auteur avec Thierry Beccaro pour son dernier ouvrage, Ma résilience à moi, où il raconte son trajet de résilient après avoir été un enfant maltraité, ce qu'il raconte dans un précédent livre.
D'accord.
Voilà.
Très bien. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Oui, merci.
Alors, pour finir, donc, comme chaque année, ne manquez pas... Midi, minuit, poésie.
Ah oui,
mais oui,
j'ai vu ça.
Y est, ça va démarrer. Donc, toutes les infos sur midi-minuit-poésie.com. Et puis, une petite annonce, hein, puisque nous représentons le CIALA. Donc, va redémarrer ses rencontres apéro. Que vous soyez auteur confirmé comme Bénédicte, ou écrivain en herbe, ou simple lecteur, vous êtes le bienvenu. Vous pouvez avoir les infos sur Facebook CIALA, ou bien contact.ciala@gmail.com. Voilà, merci, à bientôt.
Mais adieu ma vie, mon cœur, il faut bien que je m'en aille. On m'appelle, il est 6h. À demain, vaille que vaille. À moins que ton artilleur n'ait pour seul funérailles affirmée d'une simple signature. Mon amour, si d'aventure